France Culture.
Bonjour Francis Kurkdjian.
Bonjour Caroline.
C'est le cinquième et dernier épisode de nos À Voix Nues. Après avoir parlé d'un certain nombre de vos créations, d'avoir essayé de les visualiser et même peut-être d'approcher de façon olfactive ces créations qui sont les vôtres, j'aimerais qu'on parle du présent. Du présent, mais finalement aussi du passé, puisque le présent dans ce que vous faites aujourd'hui, mais aussi du passé, parce que nous allons aborder cette histoire de temps. Vous plongez dans le temps, vous avez commencé de le dire, l'histoire de la parfumerie est quelque chose qui vous nourrit, qui vous inspire. L'école française de parfumerie, vous pouvez la remettre en question avec vos connaissances d'aujourd'hui, l'enseigner différemment. Et pour parler de ce rapport au temps et de ce que vous faites aujourd'hui, évidemment, nous allons parler de Dior. Puisque en 2021, vous avez pris la direction de la création des parfums de la maison Dior. Bon, déjà, c'est pas rien pour vous, Dior, parce que il y a un petit lien familial qui remonte à une histoire du passé, déjà.
Ça remonte déjà au passé, et ce qui est fabuleux pour moi avec Dior, c'est à la fois la conjugaison de l'histoire de la parfumerie et d'une histoire familiale et intime. Et ça ne m'était jamais arrivé avec d'autres marques et d'autres projets dans ma vie. Et tout d'un coup, il y a cette rencontre, ce choc entre ce qu'évoque Dior pour un parfumeur, pour le parfumeur que je suis, et c'est qu'évoque Dior dans l'intimité de la maison. Une intimité parce que je la considère comme ma tante, c'est une amie intime de ma mère, elle se connaît depuis excessivement longtemps, elle cousait ensemble, et Françoise était entrée chez Dior à 18 ans. Quand je suis arrivé chez Dior, j'ai demandé à retrouver la fiche de Françoise, et on a retrouvé sa fiche avec sa date d'entrée, sa date de sortie, toutes les petites informations qu'on demandait à l'époque à une simple ouvrière. Elle était à l'atelier des modèles, donc c'était pas la première d'atelier, hein. Loin de là, à 18 ans, c'était pas du tout l'idée. Et tout d'un coup, ça, c'est un document qui montrait que tout ça était vrai. C'est comme si, non pas que je doutais de la parole de Françoise, mais tout d'un coup, ça attestait d'une forme de... Ouais, d'existence, des réalités, où quand elle me disait que Monsieur Dior au 30 Montel lui a ouvert la porte de l'ascenseur, où Monsieur Dior ouvrait la porte de sa voiture et elle décrit sa voiture, comment la couleur. J'ai été nourri jeune à l'âge de 8, 9, 10, 12 ans, même plus tard, de Christian Dior, un peu comme des Martine. Je fais souvent rire mes équipes avec ça.
Séries pour enfants.
Voilà,
hein,
les séries pour enfants, Martine qui fait quelque chose et Monsieur Dior fait quelque chose, Monsieur Dior ceci, Monsieur Dior cela. Et ça marque parce que tout d'un coup, dans la maison, quand je travaille pour la maison Dior, j'ai l'impression que Monsieur Dior était un peu un oncle prématurément décédé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que j'ai intimement connu. Alors, pas du tout. Mais qui est une existence et pour lequel, en entrant dans cette maison, je me suis investi d'une forme de charge, non pas lourde, mais importante de faire revivre.
Et est-ce que, un peu comme vous le disiez dans l'épisode précédent à propos des artistes, quand vous disiez que vous plongez dans leur univers, est-ce que là, vous vous devez de plonger dans l'univers Dior pour pouvoir créer ? Est-ce que vous devez suivre la mode ? Parce que de toute façon, Dior, c'est un parfumeur et un couturier. Et vous nous avez expliqué que les liens sont très très ténus, et en particulier avec cette maison. Est-ce que ça veut dire pour vous que vous pensez le parfum comme un vêtement ?
Je l'ai toujours fait. En fait, je suis venu au parfum parce que je n'ai pas pu créer le vêtement, je ne sais pas dessiner. Mais depuis mon épisode Jean-Paul Gaultier en 95, quand je composais pour quelqu'un d'autre, j'essaie de me mettre dans la tête de. Et donc, il y a plusieurs couturiers avec lesquels j'ai étroitement collaboré. Je pense à un couturier libanais qui est Elissab. À un moment donné, j'ai fait une collection pour Elissab de 8 parfums qui étaient littéralement inspirés des techniques qu'il utilisait pour ses robes, qui allaient du trompe-l'œil au plissé. Et chez Dior, je fais exactement la même chose. Déjà, connaître la biographie, parce que ce n'est pas Francis Kurkdjian qui fait du parfum chez Dior, c'est Francis Kurkdjian pour Dior. Quand je suis chez moi, je fais, entre guillemets, ce que je veux au
oui,
sens.
Parce que vous avez toujours votre maison.
J'exprime
hein.
Ma maison chez moi, et c'est presque beaucoup plus compliqué chez moi que chez les autres. Parce que faire cette auto-introspection, se mettre devant le miroir et se dire de quoi ai-je envie, déjà, c'est toujours compliqué parce que, du coup, on devient très auto-centré. Donc c'est un peu compliqué ces côtés égotiques de la création. Ça fait quand même parfois des êtres complètement insupportables. Et j'essaie aussi d'avoir la vie la plus normale possible. Ça veut dire quoi normal, je ne sais pas. Mais d'avoir les mêmes amis, d'avoir un environnement sain, c'est important pour moi. Mais travailler pour quelqu'un d'autre, c'est tellement plus facile d'ouvrir le grand livre de la maison Dior et d'essayer d'y trouver des sources qui résonnent avec ce que j'aime. Évidemment, c'est pas faire des choses que je n'aime pas, mais c'est trouver des choses en résonance en me disant, tiens, ce petit fil Dior qui aime jardiner, bah oui, c'est peut-être un peu de moi qui aime un peu gratter la terre. Mais chez Dior, ça prend des proportions énormes, puisque chez Dior, la nature est une source d'inspiration. Les fleurs sont des sources d'inspiration qui vont inspirer à Christian Dior des robes, des noms, des robes, des parfums. C'est pas du tout le cas chez moi. Dans ma maison, le domaine végétal est vraiment lié à la matière première, puisque moi, je parle de moi comme un parfumeur urbain et parisien. Chez Dior, pas du tout. Il va à Milly-la-Forêt, il s'inspire de son château de la Colle Noire, des jardins. Il connaissait quand même le catalogue Villemorin par cœur avec les noms latins des plantes. C'est pas anodin pour un créateur. Donc, c'est très intéressant. Et être chez Dior, c'est quand même aussi une manière de faire rayonner la parfumerie française dans une dimension internationale qui est juste inouïe. C'est inouï.
Aujourd'hui, vous êtes responsable de la direction artistique et olfactive des parfums Dior.
Oui, on peut le dire comme ça.
À ce titre, vous faites dialoguer, passé présent, mais aussi tradition et innovation. Mmh. De quelle façon ? Est-ce que c'est par exemple en réinventant, en réinterprétant des grands classiques de la maison ?
Alors déjà, moi, l'héritage et le passé de la maison, il commence, j'ai envie de dire, le 17 octobre 2021, parce que je suis rentré dans la maison le 18 octobre, et que tout ce qui est avant moi appartient d'une certaine manière au passé, appartient à un héritage dont il faut que je prenne soin. Prendre soin d'un parfum, ça veut dire quoi ? Ça veut dire s'assurer que, d'une fabrication à l'autre, le parfum ne varie pas dans son odeur. Les parfums sont composés avec beaucoup de produits naturels, pas que, mais beaucoup de produits naturels. Et la récolte 2024 de lavande de la Drôme provençale n'a pas exactement la même odeur que la récolte 2023, puisque les modifications du climat ont fait que, voilà, ça on peut très bien comprendre. C'est comme dans le vin, sauf que dans le vin, on va aller chercher la singularité d'un millésime. Dans un parfum, on veut que ce parfum sente exactement la même chose du 1er janvier au 31 décembre. Quelle que soit l'année. Donc il y a tout un travail avec une équipe qui est ce qu'on appelle cette maintenance olfactive qui se complexifie quand on a malheureusement certains fournisseurs qui font défaut, ils peuvent faire faillite, ils changent de méthode de fabrication, ça arrive dans toutes les industries. Quand tout d'un coup le régulateur demande à ce qu'on l'on propose à nos clients des produits les plus vertueux possible. Moi, j'ai commencé la parfumerie il y a 30 ans, on ne parlait pas de changement climatique et on ne parlait pas non plus de l'impact environnemental dans les parfums. Ce sont des notions complètement modernes. Et il faut à la fois jongler dans cette tradition de la parfumerie, mais être ancré dans les préoccupations de nos contemporains. Il n'est pas question aujourd'hui de vendre un produit qui pourrait créer à la fois des problématiques environnementales et à la fois créer des problématiques de santé publique. Je suis aussi un garant de cela. Et donc, les formules doivent répondre artistiquement, esthétiquement à une constante, un peu comme si on restaurait une toile. Et que cette restauration, elle évolue parce que les techniques évoluent aussi.
Donc, il y a un dialogue entre l'héritage et l'innovation technologique contemporaine.
Constamment. Et c'est très intéressant parce que ça oblige à réfléchir différemment et ça oblige à reviser ses pratiques, à se challenger constamment.
Est-ce que précisément, ce qui vous arrive de faire, vous l'avez fait plusieurs fois déjà, Francis Curigent, quand il vous arrive de retravailler, réinterpréter, réinventer, vous me direz quel mot vous préférez, les parfums iconiques de la maison. Mm-hmm. Je pense à J'adore, je pense aux trois colonnes de la collection privée de Dior, je pense à Miss Dior, bien sûr, et à Sauvage, par exemple. Est-ce que quand vous les réinterprétez, vous replongez dans l'histoire de ces parfums pour pouvoir vous en imprégner et les réinventer à votre façon?
Ah, c'est exactement ça. Je retourne presque au jour J, au jour zéro. Si on prend un cas pratique, parce que c'est plus intéressant. Parlons de Miss Dior. Miss Dior, c'est 1947. Très grand parfum qui accompagne
un best-seller
la même année. La même année, ça accompagne l'ouverture de la maison Dior en 1947, c'est en février. En fin d'année 1947, Christian Dior lance son premier parfum. On a le carton d'invitation où Christian Dior annonce à ses clients et ses clientes notamment le lancement de son premier parfum et leur donne rendez-vous. On a l'heure, on a le jour, on sait où exactement. Tout ça est super documenté. Quand je suis arrivé dans la maison Dior, j'avais déjà une forme de roadmap, donc un guide. On avait déjà un peu comment dirais-je, force de faire des anglicismes, on ne sait plus trop parler français, une route dessinée, tracée pour voilà les échéances, voilà un peu les grands travaux de la maison qui m'attendent. Et Miss Dior, pour moi, faisait partie de ces grands travaux parce que on avait un peu oublié ce qu'était Miss Dior. Ça, c'était mon point de vue. En 1947, Miss Dior, c'est la synthèse des parfums de l'époque. Au sens synthèse, Miss Dior capture l'esprit de la jeunesse, de ce renouveau d'après-guerre, de ce, à la fois d'une espérance collective, mais aussi l'espérance pour les femmes de redevenir des femmes, chose qu'elles avaient oubliée un peu pendant la guerre. Donc, c'était à la fois un travail d'historien, et on a tout un département héritage chez Dior qui mobilise au parfum ces 5 personnes à plein temps, qui se plongent dans les archives, et à chaque fois j'ai un sujet chez Dior, je les appelle, c'est les premières personnes que je sollicite en disant « qu'est-ce qu'on a à dire sur ?» Qu'avez-vous à me raconter sur, et bon, qu'avez-vous à me raconter sur Miss Dior? Et là, je les pousse. J'en veux plus que ce qu'ils me donnent. Je lance un défi. Allons jusqu'au bout. Donc, on a retrouvé le nom de code. Le nom de code de Miss Dior, quand Christian Dior le travaille, en 47, s'appelle Castor. Castor, c'est pas Simone de Beauvoir. Castor, c'est l'étoile la plus brillante. Christian Dior adore. Il a une passion, même plus qu'une passion, il vit avec des voyantes autour de lui. Il adore les signes, la voyance, il ne gère sa vie quasiment que grâce à ça. Donc on retrace tout, on sait que le parfum dans la vie de Christian Dior, c'est même, on lance la maison en 47, mais le parfum est déjà envisagé par son meilleur ami, qui est un ancien professionnel, 46. On retrace tout, Miss Dior c'est par rapport à sa sœur, donc à quel moment intervient sa sœur ? Puisque la légende voudrait que sa sœur rentre en salle de réunion. À un moment donné, on dit tiens, voilà Miss Dior, et tout le monde, on cherche un nom. On le sait, parce que c'est, on le sait par des correspondances où on cherche un nom. Dior est indécis. Est-ce qu'on lance un parfum ou deux parfums ? Et puis tout d'un coup, il faut prendre des décisions. Il faut avancer. Il y a une indécision chez Dior, comme souvent. Il est très angoissé, comme souvent. Et puis on se lance sur ce Miss Dior qui est le parfum de la jeunesse. Et je dois réinventer cette icône.
Avec la jeunesse d'aujourd'hui.
Eh bien, c'est ce que je me suis dit. Et je me suis dit, ben, en fait, on va s'autoriser le grand écart ultime. J'étais au départ, j'essayais de respecter le schéma olfactif du Miss Dior de 47. Mais donc, on a ressorti des archives la famille de 47. J'ai appelé tous mes fournisseurs pendant 8 mois à les obliger à ressortir de leurs archives les ingrédients qui avaient disparu. Et on l'avait toujours au catalogue, ce parfum de 47. Et en fait, ça sent juste pas l'époque. Moi, quand j'ai fait sentir ce parfum reconstitué à mes nièces qui ont 18 et 21 ans, bah ça sentait leur
ça
grand-mère.
Prend pas.
Ça prend pas. C'est beau, c'est du patrimoine, il faut le respecter.
Et puis peut-être aussi, il y avait du jasmin, je crois, dans les Dior 47. Le jasmin de 2024, c'est pas
oui,
le même.
Oui, en plus, on a dû bouger certaines choses parce qu'il y a des réglementations qui ont évolué. On n'extrait plus le jasmin en 47 comme on le fait en 2024. Voilà, beaucoup de changements. Et surtout, est-ce qu'on peut comprendre, je ne m'habille plus comme pouvait s'habiller mon grand-père dans les années 50. Une femme n'a pas les mêmes besoins. Et donc la jeunesse, pareil, s'exprime différemment. Et j'ai mis du temps à faire ce chemin du grand écart, parce que tout d'un coup, quand on est dans une maison avec cette histoire imposante, importante, c'est jusqu'où va-t-on tirer le fil ? Et quand j'ai compris que je pouvais m'autoriser ce grand écart, parce que la jeunesse s'autorise ça, en fait, donc je me dis, il faut que je colle à mon époque, voilà, je colle à mon époque. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes femmes, les jeunes gens aiment les notes fruitées, les notes gourmandes, les notes...
Vous nous parliez beaucoup de gras et de sucre
dans un épisode précédent.
Donc ça veut dire que vous l'avez confituré, ce parfum Miss Dior.
Je l'ai confituré, donc c'est comment amener, pareil, cette confiture et ce sucré dont j'avais besoin pour pas aller aux jeunes de l'époque. C'est comme, enfin, je vais pas leur ressortir une valse de Strauss, ça marche pas. Sous prétexte que c'était la musique de l'époque ou que c'était la musique... Enfin, ouais, ça ne fonctionne pas. Donc, comment, quel code ? Donc, il y a une phrase de Christian Dior qui décrit l'inspiration de Miss Dior. Pour lui, c'est un soir où l'odeur du jasmin dans un soir de Provence d'été. Le ciel éclairé par des lucioles, l'odeur du jasmin fait écho au sol de la Provence. C'est magnifique comme inspiration. Donc, comment ça vit en 2025 ? C'est assez facile. Une fois qu'on a trouvé de toute façon l'histoire qu'on raconte, après... C'est facile. La chose la plus compliquée, c'est de trouver le scénario, c'est de trouver l'argument. Mais c'est pour tout, c'est comme ça. C'est trouver le fil conducteur qui va vous faire qu'après, c'est qu'une question de technique.
Et pourquoi c'est important pour vous, Francis Kurdjian, de comprendre le contexte dans lequel il a été créé, de remonter le fil de toute cette histoire, dans ses détails, dans ses anecdotes? Est-ce que c'est parce que vous êtes curieux? Est-ce que c'est parce que vous êtes passionné d'histoire? Ou est-ce que ça vous aide ensuite à créer votre propre... parfum.
Je pense que revenir aux origines, c'est comprendre tout ce qui a pu se passer après. Parce qu'on est tous marqués par ce que l'on vit petit. Ce sont des passages qui conditionnent. L'adolescence conditionne aussi. Et un créateur est conditionné par ça. J'ai un flacon de Jean-Paul Gaultier devant moi. Jean-Paul Gaultier a été profondément marqué par sa grand-mère. Il a une relation à la grand-mère qui est singulière et qu'on retrouve souvent dans la manière dont Jean-Paul Gaultier imagine, parle dans son vocabulaire et même dans la manière de détourner les objets. C'est constitutif de qui est Jean-Paul Gaultier. La nature, le rapport à la nature chez Christian Dior et au jardin par rapport à la relation que Christian Dior avait avec sa mère est super important. Mais
ça c'est certain, c'est d'ailleurs comme n'importe quel créateur, mais oui, comme mais n'importe si vous... quel artiste.
Si on va
et
pas
pour
le
pouvoir
chercher...
vous créer à partir de ça, vous êtes obligé de comprendre tout ça pour pouvoir vous en imprégner.
Il faut le vivre, il faut le... Ce n'est pas juste... Je donne évidemment ma vision, notamment pour Dior, mais elle ne peut être que juste si je comprends qui il est vraiment et pourquoi il a fait tout ça et tout ce chemin. Pour moi, c'est fondamental. Je sais pas, vraiment, je ne sais pas faire autrement. Et dans chaque projet même artistique, j'ai toujours eu un besoin de revenir à l'origine, à l'histoire. Pourquoi ? Tout le temps.
De toute façon, vous aimez beaucoup l'histoire. J'ai devant moi un petit flacon qui s'intitule « Sillage de la reine ». Vous avez cherché à reconstituer le parfum de Marie-Antoinette. Alors ça, c'est encore un autre truc.
Ça, c'est ce qui m'a donné... Il y a eu un déclic aussi sur cette rencontre avec Elisabeth de Feydeau. On s'est rencontrés à un jury d'étudiants et on s'est demandé chacun ce qu'on faisait, non pas ce qu'on faisait là, mais ce qu'on faisait dans la vie. Je lui ai dit que j'étais parfumeur. Elle m'a dit qu'elle était historienne et qu'elle écrivait justement pour Versailles un livre sur l'histoire d'un parfumeur à la cour de Versailles, Jean-Louis Farjon. Et j'ai été... Et pareil, à l'école de parfumerie, on ne nous montre pas ce qu'est une formule du XVIIIe siècle. C'est quand même aberrant, étonnant, mais aberrant, que pour une discipline qui se veut artistique, que dans l'éducation d'un parfumeur, en tout cas en Occident, on parle des parfums d'histoire. J'avais appris que Louis XIV aimait la fleur d'oranger, mais on ne m'avait jamais montré une formule de parfumerie sous Louis XIV. Comme si un parfum ne passait pas par la formule. En fait, le parfum passe par la formule comme Mozart passe par la partition. Mais j'avais pas eu accès à ça, on m'avait jamais appris, on m'avait pas montré. Et tout d'un coup, Elisabeth de Feydeau me sort un pavé de 600 pages. Alors, voilà, un truc énorme. Dedans, il n'y a que ça. C'est un traité de parfumerie qui datait de la fin du XVIIIe siècle, dans lequel, mais je découvre, et c'est tout est dit. Et c'est à ce moment-là que je suis revenu à zéro. C'est parce que ce traité de parfumerie de Jean-Louis Farjon, qui est dans mon bureau... Ouais, mais c'est ça, là. C'est les gros ouvrages que vous avez derrière.
Derrière vous,
si je devais prendre et le lire, de quoi il parle de comment teindre des cheveux, il parle de comment retirer les taches de vieillesse sur le visage, il parle de comment prendre soin de ses mains, il parle des parfums, mais comme si j'étais dans le magasin de beauté en bas de la maison et en train de choisir une crème pour les mains, un soin pour les cheveux. On n'a rien inventé. Donc à partir du moment où je me dis que j'ai rien inventé, mais que je recompose, en fait il faut que je sache ce qui s'est passé et que j'en retrace le chemin, refaire certaines étapes créatives pour voir comment les grands maîtres de la parfumerie, Ernest Beau, grand parfumeur des années 20, et évidemment le grand maître à tous, parce qu'il n'y a pas un parfumeur qui ne cite pas Edmond Roniska dans les années 50, 60, 70 qui parle de parfumerie, Jean-Claude Elena, une génération au-dessus de moi, à la fois comprendre, adhérer, mais aussi rejeter, puisque la relation, entre guillemets, maître-élève ou faire avancer un art, c'est aussi remettre en cause des choses qui n'ont pas été remises en cause pendant parfois des siècles. Et c'est accepter de se tromper, mais en tout cas proposer. Et c'est à partir de ce moment-là où, en prenant conscience que la formule, c'est un peu l'alpha et l'oméga de mon métier, et que surtout tout a été écrit, dit avec les moyens du bord. C'est un peu comme Jules Verne. J'en parle souvent. Jules Verne, il a décrit un voyage sur la Lune. On voyageait pas sur la Lune au moment de Jules Verne. Jules Verne a décrit 20 milieux sur les mers. Le sous-marin n'existait pas. Pourtant, l'artiste est capable de se projeter dans un monde qui n'existe pas. En parfumerie, ça existe. Il y a des parfumeurs qui ont imaginé faire des parfums qui sentaient le muguet au milieu du 19e siècle. Sauf que quand on regarde et qu'on compose et qu'on recompose les formules qu'ils ont écrite au 18e siècle, 19e siècle, ça sent pas le muguet. Il faut attendre 1956 chez Christian Dior, Edmond Runisca, pour que le premier parfum qui prétend sentir le muguet sent réellement le muguet. Donc je peux rêver de choses, je peux rêver d'une autre colonne qui tienne 12 heures. J'ai le droit, Francis Curgeon, il peut écrire tout un poème, il peut écrire un livre, je peux écrire un roman à la Proust, 800 pages, sur une colonne qui pourrait tenir 12 heures. Sauf que pour l'instant, ça n'existe pas. Parce qu'un citron, l'odeur du citron, l'essence de citron meurt au bout de 30 minutes.
Est-ce que l'IA pourrait le créer ?
Ben non, parce que je n'ai pas l'ingrédient. Aujourd'hui, je n'ai pas... Physiquement, ça n'existe pas. Donc, je peux fantasmer plein de choses, ça n'existe pas. Donc, mais c'est très intéressant de se poser ces questions-là. Parce que tout d'un coup, je vais parler à des chimistes, à la recherche, pour leur dire, écoutez, il me manque ce type de note-là pour m'exprimer. J'ai envie de faire une note qui sente le frais qui tient, mais qui ne sente pas la lessive, qui ne sente pas le détergent, qui ne sente pas le machin, là. Trouvez-moi, cherchez. Mais c'est en apprenant ce qui s'est passé avant qu'on peut déjà comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui et surtout essayer d'imaginer ce qui peut être demain. Parce que moi, ma mission, c'est de composer des parfums 2 ans à l'avance. Donc ma mission, c'est prendre soin du passé et au moment présent, c'est réfléchir à ce qui va se passer dans 2 ans.
Vous nous dites quand même ce que sentait le parfum de Marie-Antoinette.
Alors, ce n'est avec pareil, en remettant en cause tout ce qu'on a pu apprendre, il s'avère que Jean-Louis Farjon n'a jamais été le parfumeur de Marie-Antoinette. Mais c'est un parfumeur contemporain. Donc, au départ, ce qu'on a présenté à l'époque, en 2004-2005, comme étant le parfum de Marie-Antoinette, finalement, aujourd'hui, je peux dire que ça ne l'est pas. Mais ça, c'est pas grave. L'histoire n'est qu'une révision constante de ce que l'on pense savoir. Et c'est ça la magie aussi de l'histoire, c'est de trouver des choses qu'on ne connaissait pas, c'est d'ouvrir tout d'un coup une boîte qu'on découvre et de découvrir que Farjon n'est pas le parfumeur de Marie-Antoinette, mais ça sent quoi ? Déjà, ça sent les produits naturels. La parfumerie et la synthèse est un mariage qui commence vers 1880. Avant 1880, tous les parfums sont des parfums 100% naturels. Est-ce que c'est pas bien ou bien d'être naturel et synthétique ? Bah, c'est comme, imaginez-vous un monde musical qu'avec un orchestre à cordes et des trombones, un orchestre classique sans musique contemporaine. Imaginez un monde du vêtement et de la mode sans fibres de synthèse ou sans machine à coudre. Imaginons un monde visuel sans la caméra, sans la photo. Voilà, c'est un peu ça. La synthèse a permis aux parfumeurs de s'exprimer, de créer des odeurs de muguet, de créer tout un champ émotionnel qu'on ne pouvait pas faire avant. Mais avant ça, Marie-Antoinette, des parfums saisonniers, parce qu'on ne sait pas conserver les odeurs, donc on a les parfums de l'été, les parfums d'hiver, on va dire comme ça, brièvement. Motif floral qu'on va retrouver, donc beaucoup de fleurs, motif qu'on retrouve sous ce fameux style Louis XVI, qui est plutôt un style Marie-Antoinette, mais style Louis XVI très fleuri. Des parfums beaucoup moins animaux, olfactivement moins sales, moins sensuels, que les parfums façon Louis XIV, Louis XV, puisque les débuts de l'hygiène, on se lave un peu plus, pas tant que ça quand même, mais quand même, on a une hygiène qui est un peu meilleure.
C'est quoi les notes de tête ?
Bon, alors en vrai, les notes de tête de cœur et de fond, c'est une invention contemporaine des années 50-60 pour l'apprentissage du parfum. À l'époque, on ne réfléchissait pas ça du tout comme ça, mais il y a de la bergamote, des fleurs, il y a de la rose, de la lavande, du jasmin, de la fleur d'oranger, de la tubéreuse, de l'iris.
Vous trouvez que ça sent bon ?
Je me suis toujours refusé de demander si ça sentait bon ou pas pour une raison. C'est est-ce qu'on se pose la question de savoir si Mozart, ça c'est bien ou pas ?
Ah, mais vous créez des parfums qui doivent sentir bon, non ?
Oui, mais je ne crée pas un parfum, je recompose quelque chose d'historique.
Pour lui,
et
oui.
L'idée de me dire, et c'était un grand débat à l'époque, c'était l'idée de dire que ça sent bon ou mauvais, ça me semblait incongru et déplacé, parce qu'à aucun moment le parfumeur qui a composé ce parfum s'est posé la question est-ce que ça sent bon ou pas ? On est tous dans une idée de composer quelque chose qui sent bon. De quel droit je peux dire que ça sentait mauvais ? Ça n'a pas de sens, parce qu'en fait, ça sent bon ou mauvais dans un cadre culturel, de société et d'époque. Dans 50 ans, on dira que ce qu'on a fait aujourd'hui est peut-être vieux. On le dira sans doute, hein, comme on dit d'un parfum d'il y a 50 ans, qui sent un peu le démodé. Il faut l'accepter, il faut avoir cette humilité-là.
Francis Curgeon, on arrive au terme de ces entretiens. Je voudrais vous demander comment vous, maintenant, aujourd'hui, vous, le fils de parents et de grands-parents arméniens, regardez votre réussite Vous avez été fait chevalier des arts et des lettres en 2008 par la ministre de la Culture de l'époque, Christine Albanel. Est-ce que c'est important, cette reconnaissance de la République française, pour le petit garçon que vous avez été ?
Pardon, je suis ému.
Vous n'êtes pas obligé de mettre des mots, l'émotion peut suffire. Hein.
Non, mais c'est important de répondre aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Je suis quelque part un survivant, ou je suis la preuve de la survivance. C'est-à-dire qu'un jour, des gens ont décrété que ma famille ou mes ancêtres ne devaient pas vivre, ne devaient pas rester sur Terre. Non pas juste ma famille, mais un peuple. On a décidé de massacrer. Ils ont décidé de déporter. Et quand je dis décidé, parce que c'était systématique, systématisé, voulu, encadré, avec des process. C'est... je ne sais pas comment le dire, en fait. C'est à la fois toutes les souffrances, c'est à la fois la reconnaissance de la souffrance de mes grands-parents, de ce qui s'est passé dans ma famille, mais aussi de ce que mes parents eux-mêmes ont vécu. Ils n'avaient pas de passeport jusqu'à l'âge de 16 ans, puisqu'ils n'étaient pas reconnus. Il n'y avait pas le droit au sol, ma mère m'en parle souvent. Hein. Pendant la guerre, pour donner un exemple, Deuxième Guerre mondiale, ma famille n'avait pas accès au masque à gaz. Okay, on se mettait d'un drap humide et qu'on se mettait sous le nez pour descendre dans les caves. Ils avaient moins de tickets de rationnement que les autres. Donc ma grand-mère a fait, j'adore raconter l'histoire, hein, elle a fait petit commerce des faux tickets de rationnement. Donc j'adorais quand elle me racontait l'histoire. C'est un peu tout ça qui chamboule dans ma tête et en même temps être reconnaissant à un pays qui nous a accueillis. Alors il y avait des droits, moi j'ai toujours appris avec des droits et des devoirs. Voilà, moi j'ai appris comme ça. Alors, c'est peut-être ringard, c'est peut-être démodé, c'est peut-être pas ce qu'il faut dire aujourd'hui. Mais ça m'oblige aussi à ne pas oublier, parce que malheureusement aussi, il y a beaucoup d'enfants d'immigrés qui ont oublié ça et qui aujourd'hui oublient qu'on les a accueillis et qu'on a accueilli à un moment donné de l'histoire de leur famille des gens dans la même situation que ceux qu'on accueille aujourd'hui. Et je me l'applique à la fois dans ma vie privée et dans le travail. Quand je dis n'oublions pas d'où on vient et allons chercher d'où on vient, il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Donc ces reconnaissances-là, elles sont pour moi fondamentales parce que c'est à la fois une preuve de la non-disparition de ce que je suis dans ma chair, parce qu'en plus, moi, ce sont mes quatre grands-parents. Donc ils n'ont pas réussi à nous faire taire, d'une certaine manière. Et puis j'ai un patronyme qui le rappelle suffisamment. La voisine, dans mon pavillon de banlieue, nous traitait de sales juifs. Et ma mère nous expliquait qu'on n'était pas juifs, donc nous expliquait qui on était. Donc un, ils n'ont pas réussi. Et deuxièmement, ça permet aussi de montrer à d'autres ce chemin qu'on peut y arriver malgré tout. Et ça, c'est pour moi très important. Malgré tout, c'est super important.
Les parfums, ils sont faits pour durer, ils sont faits pour tenir. On évite les côtés éphémères quand même.
Et ben, ils sont faits immanquablement pour mourir.
Peut-être pour mourir, mais en tous les cas, tenir un tout petit peu.
On espère qu'ils passent les outrages du temps. Oui, il faut tout faire pour passer les outrages du temps.
Merci beaucoup, Francis Kurgian.
Merci, Karine Brouet.
Pour ces 5 entretiens. C'était À Voix Nue avec Francis Kurgian, réalisation Nathalie Salle, prise de son Loïc Duros et Julien Girard, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.